Jean dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. On va aller à la Lune, on ira aux planètes, on ira aux étoiles, comme on va aujourd'hui de Liverpool à New York, facilement, rapidement, sûrement. Et l'océan atmosphérique sera bientôt traversé comme les océans de la Lune. Voilà ce qu'écrivait Jules Verne dans De la Terre à la Lune en 1865. 4 ans plus tard, en 1869, c'est-à-dire pile 100 ans avant le voyage extraordinaire d'Armstrong, Aldrin et Collins, paraissait Autour de la Lune, la suite de l'aventure du capitaine Nicholl, de Barbicane, de Michel Ardan et des deux chiens Diane et Satellite embarqués dans un obus projeté vers la Lune par Columbia d'un énorme canon. Et c'est justement le manuscrit original d'Autour de la Lune que nous font découvrir les éditions des Saint-Père, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir à quel point Jules Verne était un écrivain passionné de science et même un visionnaire. À quelques jours du 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, ça ne pouvait pas mieux tomber, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jessica Nelson.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des éditions des Saint-Pères. Ce manuscrit, c'est une sorte de cadeau d'anniversaire?
Oui, c'est ça. Et puis ça vient aussi dans une tradition de publication de quelques-uns des manuscrits de Jules Verne que nous aimons beaucoup aux éditions des Saint-Pères.
Vous aviez déjà publié, entre autres?
Oui, 20 000 lieues sous les mers et le tour du monde en 80 jours. Donc voilà, Jules Verne fait partie des auteurs maison qui nous accompagnent depuis la création.
Et puis la carte de l'île au trésor.
Et
aussi.
La carte de l'île au trésor, absolument.
De l'île mystérieuse.
De l'île mystérieuse, oui, c'est vrai, on a tendance à rapprocher les deux.
Alors, où est-ce que vous avez trouvé ce manuscrit, l'original, où est-ce qu'il est conservé?
Alors, il est au musée de Nantes qui conserve un certain nombre, voire la quasi-totalité des manuscrits de Jules Verne. Et donc, c'est avec Madame Marcetto, qui est directrice du musée, que nous avons échangé, discuté, évoqué cette possibilité en amont afin d'offrir le meilleur de ce que nous sommes capables d'offrir au public pour cette reproduction de manuscrits.
Et la directrice du musée Jules Verne de Nantes qui est avec nous en duplex. Bonjour Agnès Marcetto.
Bonjour.
Vous êtes donc en duplex grâce aux bons soins de nos confrères de France Bleu Loire-Océan, que je remercie également. Alors je parle sous votre contrôle, Agnès Marcetto. Jules Verne a publié plus de 80 romans, sans compter les nouvelles, les pièces de théâtre, les essais, les ouvrages historiques aussi. Tous ces manuscrits ont été conservés?
Oui, mais c'est 62 romans.
62 romans. Très bien.
Ça fait 80 avec les nouvelles.
80 avec les nouvelles, oui, ça dépend de la comptabilité. Alors, est-ce qu'on a effectivement conservé tous ces manuscrits aujourd'hui?
Pratiquement. Le seul manuscrit qui n'a pas été conservé, si on parle des 62 voyages, c'est 5 semaines en ballon, sans doute parce que c'était le premier et qu'il y a porté moins d'attention qu'aux autres. Voilà, les autres manuscrits sont pratiquement tous en main publique. Bibliothèque nationale, Bibliothèque municipale de Nantes, et puis il y a un manuscrit toujours en main privée qui est celui de Voyage au centre de la Terre.
Des manuscrits qui au départ ont été légués à la famille et que vous avez, vous, récupéré?
Alors en fait, ils sont restés dans la famille, de Jules à Michel, qui est donc le fils de Jules Verne, et puis ensuite à ses descendants, et la ville de Nantes a acheté un premier ensemble très très important dans les années 1980 que nous avons complété depuis.
Alors ce manuscrit autour de la Lune que les éditions des Saint-Pères nous permettent de redécouvrir aujourd'hui, le manuscrit original s'entend, dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui, Agnès Marcetto?
Alors le manuscrit qui a été reproduit est dans un excellent état. Ça n'est pas tout à fait le cas pour la version ancienne du même roman, qui est vraiment extrêmement fragile et qui, de ce fait, n'a pas pu être reproduit, mais qui, de toute façon, aurait offert de moins bonnes conditions de lisibilité pour les lecteurs d'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il y a eu deux versions, hein, un premier jet de 40 pages et puis ensuite la version complète et définitive qui a donc été reproduite, c'est bien cela?
Oui, ces romans-là, ils font partie des romans de la première décennie pour lesquels Jules Verne a encore écrit plusieurs versions, ce qui n'a plus été le cas ensuite.
Alors Jessica Nelson, c'est toujours très émouvant, j'imagine, d'avoir devant les yeux et peut-être plus encore entre les mains un manuscrit original. Est-ce que vous pouvez nous le décrire déjà? Comment l'avez-vous découvert?
Alors, c'est vrai que j'étais familière grâce, encore une fois, au partage et aux échanges que nous avons eus dans le passé avec Madame Marcetto, avec Philippe Mello qui est avec nous aujourd'hui et qui connaît bien l'animal Jules Verne, pardonnez-moi l'expression. Et c'est vrai que c'est une écriture qui est toujours fabuleuse parce qu'elle est assez accueillante, ce qui n'est pas toujours le cas des écrivains dont nous reproduisons les œuvres. Il a une écriture qui est assez régulière. Alors évidemment, là je parle de la deuxième version dont qu'évoque ok, Madame Marcetto à l'instant.
Donc écrite entre mi-avril 1869 et le mois de mai. Ça va très vite quand même.
Ça va très vite et c'est vrai que alors bon, je pense que ça dépend de chacun des écrivains. Chacun a son rythme de travail, mais c'est vrai que quand on imagine un texte pareil qui a eu un retentissement tel qu'il l'a été dans ces années-là et qui a traversé le temps comme un boulet de canon dans l'espace littéraire, c'est assez fascinant.
Alors Philippe Mello, vous êtes journaliste, écrivain, libraire, vous êtes un passionné de Jules Verne, ça on l'a compris en écoutant Jessica Nesson, vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment le guide Jules Verne avec Jean-Marie Hems aux éditions de l'Armateur, voilà, effectivement, voilà. Qu'est-ce qui vous frappe lorsque vous feuilletez ce manuscrit? Comment est-ce que vous pourriez nous décrire l'écriture de Jules Verne, au sens physique du terme, s'entend pas forcément au niveau du style.
L'écriture de Jules Verne, disons qu'elle est, elle est effectivement délicate à appréhender suivant les époques, puisque Jules Verne avait d'abord une écriture très très lisible, très simple. J'ai pu le constater lorsque j'ai eu entre les mains beaucoup de lettres qu'il avait rédigées, entre autres d'ailleurs des lettres importantes qu'il avait envoyées à ses parents ou à l'époque de son mariage, ou alors un peu plus tard, alors lorsqu'il écrivait tout simplement à son papa. Et à cette époque-là, il a une écriture, on dira, plutôt très lisible. Alors encore plus lisible lorsqu'il s'agit d'un roman, un peu moins lorsqu'il s'agit de courrier, parce qu'il a effectivement, quand on écrit tous les jours ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est que à l'époque un auteur comme lui qui avait justement beaucoup de correspondance écrivait jusqu'à 2, 3, 4 lettres par jour facilement, et parce que les envois de courrier étaient de l'ordre de 18 levées par jour. On croit rêver. Donc cette écriture-là va beaucoup évoluer. Dans les premiers temps, elle est d'une lisibilité merveilleuse. Ça va changer effectivement à partir un peu plus tard. Et son écriture va un peu se tasser, se rabougrir, parce qu'il a eu aussi quelques petits problèmes, quelques problèmes de santé, quelques problèmes affectifs qui vont le bousculer un petit peu.
Oui, ça va très vite. Hein, on le disait, Agnès Marcetto, à quelques mois seulement pour la version définitive. Est-ce que on peut dire que Jules Verne avait une vraie facilité d'écriture? C'était une sorte de graphomane, on peut dire ça, ou pas du tout?
Non, alors, bien sûr, la dernière version, elle est écrite rapidement, mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes précédentes et beaucoup de travaux préparatoires. Alors d'abord, toute cette énorme documentation qu'il amasse. Ensuite, la version ancienne. Donc, bien entendu, quand il fait sa mise au net, ça peut aller vite. Mais il faut quand même bien tenir compte de tout ce qui a précédé. Alors, ceci dit, ça n'empêche pas qu'effectivement, c'était un véritable graphomane. De toute façon, il considérait que l'écriture était la source du seul bonheur véritable. Et de toute façon, pour lui, écrire, c'était vivre. Donc, tout cela est tout à fait logique.
Mais les idées lui venaient au fil de la plume, ou bien c'est réellement ce travail préparatoire-là qui lui permettait de jeter ainsi sur le papier les aventures de ses personnages?
Oui, bien sûr, c'est un travail préparatoire énorme, un travail de documentation. Et en plus, il s'inspire de tout ce qui est l'actualité de son temps, parce que même si on a raison de dire que c'est une fabuleuse capacité d'anticipation, il s'appuie toujours sur les bases les plus sérieuses, c'est lui-même d'ailleurs qui nous le dit, et ce qu'il écrit, il l'a puisé aux sources documentaires les plus sûres.
Alors, Jessica Nelson, l'un des grands intérêts du travail que vous faites aux éditions des Saint-Pères, c'est de découvrir les corrections, hein, aussi, les annotations des différents auteurs, les repentirs, les regrets qu'il peut y avoir. Là, finalement, il n'y en a pas tant que ça dans ce manuscrit par rapport à tant d'autres que vous avez publiés.
Bien sûr, c'est vrai que l'intérêt du manuscrit, ce sont les coulisses et l'envers du décor, c'est le laboratoire d'écriture de l'auteur. Et certains manuscrits de Jules Verne nous montrent, alors là je pense notamment autour du monde en 80 jours, où nous avions la version vraiment primitive, je parle sous le contrôle de Madame Marcetto, qui est donc une version conservée au musée Jules Verne à Nantes, et où on voyait évidemment des calculs très précis de la trajectoire du voyage de Phileas Fogg, de toutes les étapes du voyage. Et c'est vrai que ça, seuls les manuscrits nous permettent d'avoir accès à ces informations et à cette, d'une certaine façon, à ce voyage intérieur, même s'il est nourri de tant de lectures et de tant de documentation, comme on le rappelait il y a un instant. Et le manuscrit permet cette connexion-là à l'univers intérieur de l'auteur.
Et il y a beaucoup de différences entre le premier manuscrit et le second ?
Alors, vous parlez là d'autour de la Lune,
oui.
Et de, alors, les différences, je pense qu'il faudrait se mettre très sérieusement à une table de travail avec tous les documents pour pouvoir faire un comparatif entre toutes les versions qui existent, voire même entre la version qui a été publiée initialement en revue, puis en livre. Et je suppose que oui, enfin, ça s'appelle la critique génétique et un certain nombre d'analystes et de spécialistes de la question s'y pencheraient volontiers.
L'ouverture du Voyage dans la Lune, l'opéra féerie de Jacques Offenbach, créé en 1875 à Paris au Théâtre de la Gaîté, livret d'Albert Van Loo, Eugène Leterrier et Arnold Mortier. D'après Jules Verne, alors apparemment Philippe Mello, au départ, la création a eu lieu sans l'accord pur et simple de l'auteur. Hein.
Non, je dirais que ça traitait plus de l'inspiration. D'ailleurs, même le récit par lui-même, l'histoire par elle-même, je dirais d'une confusion relativement faible. Non, il venait. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est que bon, Jules Verne était un auteur de théâtre avant d'être un romancier. Et l'année précédente, en 1874, il avait fait lui-même l'adaptation du Tour du Monde en 80 jours, qui venait d'ailleurs de sortir il y a peu en volume texte et en édition illustrée la même année. Donc il retrouve, je dirais, sa véritable passion originale qui était le théâtre, mais en marge de son œuvre qui elle est déjà, comment dire, en train de devenir complètement international. Lorsqu'on est en 1875, les États-Unis ont publié déjà l'œuvre complète, par exemple, de Jules Verne, traduite là-bas et la plupart des pays du monde également. Jules Verne, à cette époque-là, est déjà une immense pointure, le terme est vraiment très laid, pardonnez-moi, en termes de romancier international.
Le Times l'appelle le prince des conteurs, ce que je trouve absolument parfait, ça lui convient absolument parfaitement.
C'est cela, Agnès Marcetto, la première qualité de l'écrivain Jules Verne, c'est d'abord quelqu'un qui sait raconter des histoires.
Alors effectivement, il sait les raconter et en amont, en plus, il sait les ficeler. Ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il allie toute une série de qualités. Il sait camper ses personnages, il sait trouver les rebondissements qui nous tiennent en haleine, et en même temps, il a une qualité poétique dans certaines descriptions, qu'on peut d'ailleurs vérifier dans Autour de la Lune, parce que la poésie des espaces sidéraux est absolument fascinante.
Alors on va commencer par évoquer les personnages, Philippe Mélo. Dans votre guide Jules Verne figure un petit dictionnaire des héros et des acteurs des voyages extraordinaires, avec évidemment les trois héros de ce voyage vers et autour de la Lune. Je voudrais que vous les présentiez en quelques mots, peut-être en commençant par les deux Américains, ce capitaine Nicholl et Impey Barbicane. Qui sont-ils exactement? Ce sont des Yankees, hein, c'est l'expression que vous utilisez dans le dictionnaire.
C'est les Yankees. Alors, je dois renvoyer quand même à mon co-auteur cette rédaction absolument merveilleuse, à Jean-Marie Hems, qui
est très bien écrite, hein, faut le reconnaître.
Qui était merveilleusement écrite, et donc je me garderais bien de vouloir la voler. Mais si on avait juste une seconde pour Barbicane, je trouverais très très amusant simplement de lire, parce qu'il a vraiment une vision de Barbicane.
Allez-y. Vision physique. Déjà,
sec et raide comme un épouvantail, profil tranchant et barbichette, rigoureux comme un automate, aussi espiègle que du papier timbré, le tube vissé sur la tête, rigoureusement vertical, avec l'aide d'un fil à plomb, une allure tenant à la fois du croque-mort, du pasteur méthodiste, d'Abraham Lincoln et de l'oncle Sam, voilà le pur Yankee, président du Gun Club de Baltimore. C'est j'avais un co-auteur, je l'ai conservé, on a fait plein de choses comme ça ensemble, qui avait une patte et surtout une espèce de mordant dans l'usage de ces mots qui était merveilleuse.
Donc le Gun Club de Baltimore, dites-nous un petit mot justement de ce club. Ce sont des passionnés d'artillerie, d'armes à feu, de canon.
Passionnés du canon, quoi. C'est d'ailleurs toutes les premières illustrations vont vraiment représenter, et même des fois se tromper, d'ailleurs mal interpréter les écrits de Jules Verne, et on présente ça comme un canon. Alors, effectivement, on est assez loin des fusées qui viendront plus tard. Et le romantisme et la fantaisie de Jules Verne, qui pourtant, a toujours attaché beaucoup d'importance, au côté scientifique et technique. Là, par contre, était peut-être un peu léger, parce que toutes les analyses que les scientifiques pourraient faire aujourd'hui, toute personne envoyée dans un obus tel qu'il a été conçu par Jules Verne serait mort d'être sorti de la gueule du canon.
D'accord, donc ça irait effectivement extrêmement vite. Bon alors, pour quelle raison, en quelques mots, ces deux personnages-là vont-ils se mettre en tête d'aller jusqu'à la Lune?
D'accéder à la Lune est sans doute le plus vieux rêve de l'humanité, enfin un des plus vieux rêves de l'humanité, dirons-nous. Et donc ces personnages hors normes, ces penseurs, et surtout en plus de ça, il faut remettre ça aussi dans un autre contexte. N'oublions pas que l'autre personnage très très important, le petit français qui s'appelle Michel Ardan,
oui.
est inspiré d'un ami de Jules Verne qui est tout simplement l'aéronaute, photographe au départ, dessinateur au départ, et puis aéronaute,
Nadar. Ardan Nadar,
c'est l'anagramme qu'on a bien compris. Et donc, il y a toujours cette tentation, de se hisser au-delà de la Terre. Mais Nadar n'a pas encore le rêve d'aller jusqu'à la Lune. Enfin, en tout cas, il ne l'exprime pas.
Agnès Marcetto, il est clair, effectivement, que c'est Nadar qui a inspiré le personnage de Michel Ardan. Il se connaissait avec Jules Verne, je crois.
Très bien.
Alors, ils se connaissaient très très bien, puisqu'ils se retrouvaient autour de ces sociétés qui s'étaient constituées à ce moment-là pour traiter de l'importante question de l'aérostation, et puis aussi le débat entre le plus lourd et le plus léger que l'air, les ballons, et puis ce qui deviendra les avions et les hélicoptères. Et de toute façon, le fait que ce soit bien Nadar qui a inspiré Ardan, c'est parfaitement documenté, puisque Jules Verne le lui écrit.
Oui, certains disent que c'est Nadar qui aurait présenté Jules Verne à son éditeur, c'est avéré?
Oui, c'est une des possibilités.
Voilà, Pierre-Jules Hetzel, son éditeur. On va se plonger dans un premier extrait d'Autour de la Lune, extrait du chapitre préliminaire, qui, précise l'auteur, résume la première partie de cet ouvrage pour servir de préface à la seconde.
« Suivant la note rédigée par les membres de l'observatoire, le canon destiné à lancer le projectile devait être établi dans un pays situé entre 0 et 28 degrés de latitude nord ou sud, afin de viser la Lune au zénith. Le boulet devait être animé d'une vitesse initiale de 12 milliards à la seconde. Lancé le 1er décembre à 11h, moins 13 minutes et 20 secondes du soir, il devait rencontrer la Lune 4 jours après son départ, le 5 décembre, à minuit précis, à l'instant même où elle se trouverait dans son périgée, c'est-à-dire à sa distance la plus rapprochée de la Terre, soit exactement 86 410 lieues. Les principaux membres du Gun Club, le président Barbicane, le major Elphiston, le secrétaire G.T. Maston et autres savants, tinrent plusieurs séances dans lesquelles furent discutées la forme et la composition du boulet, la disposition et la nature du canon, la qualité et la quantité de la poudre à employer. Il fut décidé, premièrement, que le projectile serait un obus en aluminium d'un diamètre de 108 pouces et d'une épaisseur de 12 pouces à ses parois, qui pèserait 19 250 livres. Deuxièmement, que le canon serait une columbiade en fonte de fer, longue de 900 pieds, qui serait coulée directement dans le sol. Troisièmement, que la charge emploierait 400 000 livres de fulmicoton, qui, développant 6 milliards de litres de gaz sous le projectile, l'emporterait facilement vers l'astre des nuits. Ces questions résolues, le président Barbicane, aidé de l'ingénieur Murchison, fit choix d'un emplacement situé dans la Floride, par 27,7 degrés de latitude nord et 5,7 degrés de longitude ouest. Ce fut en cet endroit qu'après des travaux merveilleux, la Columbiade fut coulée avec un plein succès. Les choses en étaient là quand survint un incident qui centupla l'intérêt attaché à cette grande entreprise. Un Français, un Parisien fantaisiste, un artiste aussi spirituel qu'audacieux, décida à s'enfermer dans un boulet afin d'atteindre la Lune et d'opérer une reconnaissance du satellite terrestre. Cet intrépide aventurier se nommait Michel Ardan. Il arriva en Amérique, fut reçu avec enthousiasme, tint des meetings, se vit porter en triomphe, réconcilia le président Barbicane avec son mortel ennemi, le capitaine Nicholl, et comme gage de réconciliation, il les décida à s'embarquer avec lui dans le projectile.
Ouais, ce projectile, on peut le découvrir hein, en feuilletant le livre Jessica Nelson, puisqu'il y a aussi des illustrations, des gravures qui figuraient déjà dans l'édition originale.
Oui, alors c'est vrai que ça fait partie des partis pris, des choix éditoriaux qui ont été les nôtres d'illustrer le manuscrit par ces gravures extraordinaires qui nous replacent dans un contexte, qui nous figurent à la fois les décors, les personnages, la technologie entre guillemets mise au point par Jules Verne, et ça participe, je crois, aussi à nous rappeler peut-être d'une certaine façon les lectures que nous pouvions avoir quand nous étions enfants, même si je fais pas partie de ces gens qui partent du principe que quand il y a une illustration, c'est un livre pour enfants. En tout cas, ça réveille des souvenirs liés à des éditions plus ou moins anciennes. Et là, c'est sans doute Philippe
Mello. Oui, parce que vous avez amené une édition ancienne d'autour de la Lune, qui n'est pas la première édition, mais pas très loin. Et on retrouve d'ailleurs ces illustrations qu'on évoquait à l'instant.
Oui, c'est ce qui est important dans la vie de Jules Verne, c'est cette espèce de dualité entre les éditions qu'on va qualifier de poche, qui paraissaient brochées en petit cartonnage ou autre, et les grandes éditions illustrées qui, elles, ont marqué tous les lecteurs de génération en génération. Et dans le cadre de ces éditions, alors il faut imaginer que de la Terre à Lune comme autour de la Lune a eu peut-être 30 ou 40 versions différentes, avec des couvertures différentes, avec des couleurs différentes. C'est un univers bibliophilique absolument merveilleux. Et sans doute le plus beau cartonnage qui ait jamais été réalisé pour Jules Verne était ce cartonnage dit au monde solaire. Parce que il n'a eu finalement que deux vrais titres donc qui ont un lien direct avec l'univers stellaire. Et donc ils ont conçu, Hetzel a conçu pour Jules Verne cette espèce de beauté absolue, quoi, parce que c'est vraiment d'une conception graphique graphique époustouflante. Et de la Terre à la Lune, et l'autre titre, c'est Hector Servadac, qui lui est paru en 1977, et pour lequel d'ailleurs a été créé le cartonnage. C'était pour Hector Servadac, paru en 1977. De la Terre à la Lune, lui, finalement, on ira droit qu'à partir de 1881. Mais par contre, c'est un décor absolument merveilleux et unique. Comme, difficile à décrire, j'avoue. C'était une telle richesse graphique que c'est difficile à montrer.
Jessica Nelson évoquait à l'instant Agnès Marcetto les gravures et les souvenirs d'enfants. Et c'est vrai que on a tous lu effectivement Jules Verne, celui-ci ou un autre, voire des autres, quand on a été enfant. Est-ce qu'on peut dire que Jules Verne était d'abord un auteur pour enfants, Agnès Marcetto, ou c'est un petit peu exagéré?
Alors, lorsque Jules Verne écrit, il s'inscrit à la demande de Hetzel dans un projet, effectivement, qui est un projet pédagogique. Donc, il écrit, alors, peut-être moins pour les enfants que pour la famille, et dans un souci de transmission d'un savoir, ou d'acquisition d'un savoir, auprès d'ailleurs plutôt de jeunes adolescents que véritablement d'enfants. Ceci étant dit, l'ambition de Jules Verne, déjà de son vivant, c'est d'écrire pour un public beaucoup plus large. Et de toute façon, aujourd'hui, Jules Verne, il est lu par tous les âges. Alors, ce que l'on peut dire à ce sujet, c'est qu'on ne le lit pas de la même façon en fonction de l'âge auquel on le lit.
Mais alors la revue lancée par les éditions Hetzel, qui s'appelait Le Magasin d'éducation et de récréation, était destinée au jeune public.
Oui, mais des romans comme De la Terre à la Lune et Autour de la Lune ne paraissent pas forcément en pré-original dans le magazine. Donc il y a quand même différents types de romans dans l'œuvre de Jules Verne. Et De la Terre à la Lune, si effectivement ce sont des romans qui peuvent enchanter le plus jeune âge, intéressent aussi directement les adultes, surtout à l'époque où ils paraissent. Parce qu'ils ont une telle capacité d'anticipation que forcément ils font écho à beaucoup d'interrogations et de préoccupations de l'époque. Donc il faut les remettre dans l'ensemble de ce contexte pour véritablement bien les comprendre.
Original de la version restaurée du Voyage dans la Lune, le premier film de science-fiction de l'histoire, signé Georges Méliès en 1902, film adapté de Jules Verne et d'H.G. Wells, musique signée par le duo électronique français R dans VMDN sur RFI avec Agnès Marcetto, Jessica Nelson et Philippe Mello à l'occasion de la sortie aux éditions des Saint-Pères de la reproduction du manuscrit original du roman de Jules Verne Autour de la Lune et pas sur la Lune, Philippe Mello, parce que dans le livre, les trois hommes, ils font pas tout à fait comme Armstrong et Aldrin. Ils vont pas poser le pied sur l'astre.
D'abord, je vous arrêterai, il ne faut pas comme Absalon et Abric, mais surtout pas comme Tintin. N'oublions pas que Tintin
aussi, bien avant, c'est vrai, il fallait oublier, pardon.
Non, et l'univers, je dirais, à la fois vernien, l'univers de Tintin, Hergé, donc, et la réalité, est vraiment une forme de continuité. C'est-à-dire, dans l'inconscient collectif, puisque ce sont trois étapes, trois épisodes qui ont vraiment marqué tout le monde. Les amateurs de Tintin étaient les lecteurs de Jules Verne, et vice versa. Enfin, il y a un véritable fil conducteur entre ces trois univers. Effectivement, non. Par ailleurs, les Ardent et ses deux chiens et ses amis ne posent pas le pied sur la Lune. Là, ils n'en auraient pas la possibilité. S'ils l'avaient posé, ils savaient d'entrée qu'ils ne pourraient pas en repartir.
Il y a un vrai rapprochement, Agnès Marcetto, entre Hergé et Jules Verne, comme le subodore Philippe Mélo.
Oui, on dit bien que Jules Verne a inspiré Hergé, mais effectivement Hergé il écrit à son époque, et donc il est donc en capacité, lui, d'utiliser la fusée et d'aller jusque sur la Lune.
Alors il y a effectivement les chiens aussi, il y a un chien unique chez Hergé, hein, donc c'est Milou évidemment qui va aller effectivement sur la Lune. Ils sont deux chez Jules Verne, hein, Satellite et Diane. Vous pouvez en dire un petit mot, Agnès Marcetto, nous présenter, nous expliquer la présence de ces deux chiens à l'intérieur du vaisseau.
Oui, alors c'est peut-être déjà l'occasion de dire que ce vol, il est habité grâce à Michel Ardant, puisque ça n'était pas le projet d'origine du Gun Club, oui, qui voulait envoyer un projectile dans la Lune, mais qui n'avait pas prévu que le vol serait habité. C'est l'audace et la fantaisie du français Ardant qui permettent d'envoyer des hommes vers la Lune. Et Ardant, qui est persuadé au départ qu'on va se poser sur la Lune et qu'on va y créer une sorte de colonie, part avec un peu une idée d'Arche de Noé, c'est-à-dire qu'il emporte avec lui des plantes qu'il va pouvoir acclimater, et puis aussi quelques animaux, dont ces deux chiens. Et il faut rappeler qu'un des chiens aura d'ailleurs un destin tragique, puisqu'il meurt accidentellement pendant le vol.
Alors, à l'intérieur du projectile, hein, puisque c'est le mot qu'il faut employer, puisqu'il a été lancé, je le rappelle, par un gigantesque canon, on a tout pour vivre correctement, hein, Philippe Mélo. Hein, c'est capitonné, il y a même le chauffage au gaz. Quoi.
Tout est conçu intelligemment et en fonction de ce qu'on peut imaginer être, je dirais, de tout ce qui est nécessaire à la vie, hein, lors d'un tel voyage. Et c'est là encore où il est intéressant de voir, c'est que tout le travail qui a été effectué par Jules Verne en amont pour pouvoir toute la documentation qu'il a été chercher, tout comme donc son successeur, bien encore que Hergé, là je me porte un peu en faux, n'était pas un vrai lecteur de Jules Verne, il n'était pas du tout un fan de Jules Verne, contrairement à ce que beaucoup de gens ont écrit, c'est plutôt faux. Mais enfin, d'autre part, je dirais que Hergé, de la même manière, s'est énormément documenté. Alors évidemment, avec une différence une succession d'années totalement nouvelle, parce que bon, là on est au lendemain de la Seconde Guerre, les V2 existent, donc on imagine que la documentation qu'un Hergé était en mesure d'avoir, et donc de créer, je dirais, une aventure très réaliste, lui était beaucoup plus possible qu'un Jules Verne, dont aujourd'hui, je dirais que le côté réellement scientifique et technique, dans ce cas-là précisément, pas dans bien d'autres romans qu'il ait pu faire, tout ça était un peu plus en lien avec l'imaginaire qu'avec une technique réellement.
Mais alors justement, Agnès Marcetto, est-ce que l'on connaît pour cette aventure-là les sources documentaires de Jules Verne?
Oui, on sait assez précisément comment il a travaillé, ne serait-ce que parce que dans sa correspondance avec son éditeur, il insiste sur le caractère sérieux et un peu raide, dit-il, du roman. Alors il s'appuie sur des publications de l'époque, il s'inspire de Flammarion, sans tellement d'ailleurs retenir tous les aspects. Il s'inspire aussi des travaux d'un physicien qui s'appelait Joseph Bertrand, et il se trouve que ce physicien avait travaillé avec un cousin germain de Jules Verne, qui était lui-même un mathématicien, qui s'appelle Henri Garcet. Et donc non seulement il utilise les sources, Jules Verne, mais il fait vérifier un certain nombre de choses. Ce qui fait que ce roman, aujourd'hui, lorsqu'on le considère scientifiquement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont exactes et qui annoncent bien la réalité future.
Donc on est dans l'anticipation.
Effectivement, un certain nombre d'erreurs. Donc il faut rappeler, par exemple, que ça n'est pas par hasard si le vol est envoyé depuis la Floride, parce qu'on savait déjà que c'était un des endroits de la Terre qui était relativement propice.
Donc le point de départ est vraiment situé pas très très loin de Cap Canaveral, où la NASA va construire sa base de lancement.
Et ça n'est pas par hasard. Et d'autre part, il y a ce retour par amérissage que les astronautes américains ont très très vite salué comme une véritable capacité d'anticipation de la part de Jules Verne.
Donc il atterrit à 5 km de l'endroit indiqué par Jules Verne, le module Apollo 11, ça c'est quand même vraiment impressionnant. Il y a des calculs, effectivement, Jessica Nelson, quand on feuillette le manuscrit, alors, je ne sais pas s'ils sont purement scientifiques.
Alors, me semble-t-il que non. Là, je parlerai évidemment avec sous l'approbation de Philippe Mello et Agnès Marsetto, mais je dirais que au-delà de la dimension scientifique qui évidemment est très importante et de l'appui qu'il a pu recevoir de la part de ce cousin dont on parlait à l'instant, c'est que d'une certaine façon les dialogues de ces personnages reflètent vraiment des préoccupations humaines de cette époque-là et des préoccupations humaines liées à la science et liées à la technique, aux prouesses techniques potentielles de ce siècle. Mais véritablement, ce sont des questions finalement que tous ces lecteurs pouvaient se poser en se projetant dans l'imaginaire sur qu'est-ce que ça pouvait être que d'envoyer trois hommes, des poules et des chiens dans l'espace. Et c'est là où il est véritablement à la fois extraordinairement doué, c'est qu'il est dans la considération scientifique, dans la considération humaine, et que tout ça se retrouve de façon très romanesque et narrativement parlant dans son texte, dans son manuscrit, dans la version éditée, etc.
Et est-ce qu'on peut, là aussi, Agnès Marsetto, faire un parallèle entre les écrits de Jules Verne et toutes ces questions à la fois scientifiques et humaines que se poseront les êtres humains un siècle après, jour pour jour?
Mais tout à fait, mais je pense que c'est des questions qu'on se posait déjà à l'époque de Jules Verne. Son génie, c'est d'avoir considéré que c'était une merveilleuse matière romanesque, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres écrivains à son époque. Voilà, il apparaît d'autant plus comme un anticipateur qu'il a su saisir cette réalité qui était en train de se construire.
Alors, il y a de nombreuses pages de description de la Lune dans Autour de la Lune, comme dans ce bref passage.
Le peu d'obliquité de l'axe lunaire y maintient le Soleil à une hauteur presque constante sous chaque latitude. Au-dessus des régions équatoriales, l'astre radieux occupe presque invariablement le zénith et ne dépasse guère la limite de l'horizon dans les régions polaires. Donc, suivant chaque région, il règne un hiver, un printemps, un été ou un automne perpétuel, ainsi que dans la planète Jupiter, dont l'axe est également peu incliné sur son orbite. À quelle origine rapporter ces rainures? Question difficile à résoudre. Elles sont certainement postérieures à la formation des cratères et des cirques, car plusieurs s'y sont introduites en brisant leurs remparts circulaires. Il se peut donc que, contemporaines des dernières époques géologiques, elles ne soient dues qu'à l'expansion des forces naturelles. Cependant, le projectile avait atteint la hauteur du 40e degré de latitude lunaire, à une distance qui ne devait pas excéder 800 km. Les objets apparaissaient dans le champ des lunettes comme s'ils eussent été placés à deux lieues seulement. À ce point, sous leurs pieds, se dressait l'hélicon, haut de 505 mètres, et sur la gauche s'arrondissaient ces hauteurs médiocres qui enferment une petite portion de la mer des pluies sous le nom de Golfe des Iris. L'atmosphère terrestre devrait être 170 fois plus transparente qu'elle ne l'est, pour permettre aux astronomes de faire des observations complètes à la surface de la Lune. Mais dans ce vide où flottait le projectile, aucun fluide ne s'interposait entre l'œil de l'observateur et l'objet observé. De plus, Barbicane se trouvait ramené à une distance que n'avaient jamais donné les plus puissants télescopes, ni celui de John Ross, ni celui des montagnes rocheuses. Il était donc dans des conditions extrêmement favorables pour résoudre cette grande question de l'habitabilité de la Lune. Cependant, cette solution lui échappait encore. Il ne distinguait que le lit désert des immenses plaines et vers le nord d'arides montagnes. Pas un ouvrage ne trahissait la main de l'homme, pas une ruine n'attestait son passage, pas une agglomération d'animaux n'indiquait que la vie s'y développa, même à un degré inférieur. Nulle part le mouvement, nulle part une apparence de végétation. Des trois règnes qui se partagent le sphéroïde terrestre, un seul était représenté sur le globe lunaire, le règne minéral.
Voilà, c'est extraordinaire, Philippe Mello, parce qu'on est vraiment dans l'histoire, dans l'aventure, dans les personnages et en même temps dans la précision scientifique. Les deux sont vraiment entremêlés au cœur même du récit.
C'était, je crois, une des plus belles caractéristiques d'ailleurs de Jules Verne, c'est réussir à lier cette idée d'éducation, comme le magazine dont on parlait tout à l'heure le disait bien, avec la récréation. Donc il a réellement une force. Et pour revenir sur une petite chose, c'est qu'effectivement n'oublions pas que la Lune est notre satellite. Donc là l'information est tout à fait sérieuse et considérable en dehors de la face cachée, bien entendu. Mais ce qu'il faut quand même rappeler à cette époque, c'est que Flammarion lui-même d'ailleurs a écrit un livre là-dessus. À l'époque où Jules Verne écrit ses bouquins, on est absolument certain, peu de gens en tout cas en doutent que Mars est habité. Il faut imaginer qu'à l'époque, on est convaincu qu'un peu plus loin, enfin beaucoup plus loin, oui, se dirons-nous, enfin un peu plus loin,
quelques centaines de mètres près,
un peu plus loin, il existe des Martiens. Donc la question que se pose Barbicane est merveilleuse, c'est-à-dire il n'y a pas d'habitation.
Alors comment justement Jules Verne articulait-il sa documentation scientifique, sa volonté réaliste, on va dire, Agnès Marcetto, et son imagination qui était peut-être aussi un petit peu débridée quand même de temps en temps, parce que j'ai lu que son éditeur parfois est obligé de le calmer un peu, c'est vrai?
Alors, il avait des discussions avec son éditeur, dont on pourrait parler d'ailleurs presque à l'infini. Ouais. En fait, c'est vraiment son génie propre de faire un copier-coller qui soit aussi talentueux, puisqu'il arrive effectivement à tricoter la documentation et puis le récit. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a récit qu'on se laisse emporter par le fil de l'aventure et qu'à cette occasion, on apprend tant de choses. Et effectivement, c'est un talent qui lui est propre et qui, je pense, est relativement inégalé.
Alors, vous parliez des discussions avec son éditeur. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'était un petit peu difficile à certains moments? Est-ce que l'éditeur était là pour le canaliser?
Non, c'est pas le terme que j'emploierais. Hetzel, c'est une sorte de père sublime pour Jules Verne. D'autre part, c'est celui qui lui a permis de devenir le romancier et l'homme de lettres qu'il souhaitait être. Donc il y a effectivement une relation de respect entre Jules Verne et Pierre-Jules Hetzel. Lorsque ce sera Louis-Jules Hetzel, le fils, ce sera un petit peu différent. Et puis, comme Pierre-Jules Hetzel, je dirais presque par conscience intellectuel et professionnel, était un éditeur interventionniste, il y a eu des discussions vives, et quelquefois d'ailleurs Jules Verne n'a pas eu entre guillemets le dessus, et Hetzel, qui de mon point de vue était assez souvent bien inspiré, ne l'a pas toujours été. Donc c'est aujourd'hui une source absolument inépuisable de discussions pour les exégètes de Jules Verne.
Jessica Nelson.
Oui, ce que dit Madame Marcetto est absolument juste. C'est vrai que quand on se plonge dans les correspondances entre les éditeurs et les auteurs, et en particulier Jules Verne et Hetzel, on y découvre aussi une autre dimension à l'élaboration du texte en cours. Je saurais plus vous dire dans quel courrier exactement, mais le personnage, par exemple, du capitaine Nemo a fait l'objet de discussions très vives entre Jules Verne et Hetzel. Certains passages du Tour du Monde en 80 jours aussi, et c'est vrai que l'éditeur se présente toujours, enfin en tout cas dans ce cas particulier, comme un contrepoint vraiment intéressant pour le créateur, et parfois le créateur l'écoute et parfois il l'ignore.
Quel est le premier livre de Jules Verne que vous avez lu, Jessica Nelson, ou celui qui vous a peut-être le plus marqué?
Oh, je pense que c'était 20 000 lieues sous les mers. Je pense que c'est celui qui restera effectivement dans ma mythologie personnelle. Mais ensuite, je pense que c'est comme chacun d'entre nous, quand on découvre un texte comme celui-ci, mais ça aurait pu être Autour de la Lune ou De la Terre à la Lune de la même manière. Mais quand un auteur comme Jules Verne vous prend par la main, il ne vous lâche plus.
Philippe Mello.
Moi, dans mon souvenir, c'était le Tour du Monde en 80 jours, mais avec une petite confusion peut-être dans le temps, j'ai le souvenir d'avoir lu Le Sphinx des Glaces, qui est un roman beaucoup plus tardif, qui est paru en 1897, et qui est une suite à un roman d'Edgar Poe. Et le côté roman polaire de Jules Verne m'a toujours fasciné. Entre autres, Les Voyages et Aventures du Capitaine Atterras, qui est un de ses tout premiers romans et trop peu connu.
Agnès Marcetto, difficile
moi,
de choisir.
J'ai lu 5 semaines, oui. J'ai lu 5 semaines en ballon en premier, ce qui chronologiquement est correct,
idée.
En
oui.
guillemets. Mais mon préféré, toute catégorie confondue, c'est Le Tour du Monde en 80 jours.
Voilà, merci. Moi, c'est Michel Strogoff. Vous voyez, comme quoi, dans un style complètement différent.
Bon
merci.
Choix.
Merci beaucoup à tous les trois, Jessica Nelson, Agnès Marcetto, Philippe Mello. Autour de la Lune, le manuscrit aux éditions des Saint-Pères, le texte intégral disponible en livre de poche, le guide Jules Verne de Philippe Mello et Jean-Marie Hems aux éditions de l'Amateur, et puis le musée Jules Verne à Nantes, ouvert tous les jours, sauf le mardi de 14h à 18h, et également le samedi matin de 10h à midi.
Vous m'en direz des nouvelles. Sur RFI.
Terminons en musique avec jusqu'au 6 juillet à Montréal le Festival international de jazz, le plus grand festival de jazz au monde, et à l'occasion de son 40e anniversaire, la manifestation a une nouvelle fois démontré qu'elle était encore en plein développement. Reportage pour VMDN signé Antoine Becker.
Pendant près de 10 jours, Montréal vit au rythme du jazz. Chaque soir, le festival accueille environ 200 000 spectateurs. Tous les styles de jazz des quatre coins de la planète sont à l'affiche. Dans la salle de l'Astral, on entend par exemple la voix du Brésilien Rodrigo Amarante, qui a signé la bande originale de la série Narcos, entre saudade et rock alternatif. À quelques mètres de là, dans l'église du Jésus, c'est le pianiste norvégien Tord Gustavsen qui lui relie Jean-Sébastien Bach au jazz. Dans les coulisses, Tord Gustavsen nous explique ce qu'il aime dans ce festival.
C'est l'un des endroits où je préfère jouer en raison de l'énergie du public et de la qualité du festival. La façon dont ce festival combine à la fois la célébration du jazz pour tout un chacun dans la ville et en même temps une programmation exigeante.
Le festival appartient au groupe CH qui possède la plupart des grandes manifestations artistiques de Montréal, aussi les Franco ou Montréal en Lumière. Jacques-André Dupont, le directeur général du Festival de Jazz, nous explique comment s'organisent ces 10 jours de concerts.
80% de l'offre de nos concerts est présentée gratuitement à l'extérieur. Donc, nous fermons une bonne partie du centre-ville de Montréal à la circulation automobile et on érige plusieurs scènes sur la rue et dans les parcs. Et puis, vous pouvez voir environ une trentaine de concerts extérieurs tous les jours. Et après ça, il y a une quinzaine, entre 10 et 15 événements en salle avec de la billetterie. Donc, c'est comme deux festivals en un.
Le budget du festival est d'environ 20 millions d'euros. Il repose sur une alliance de sponsors privés et de fonds publics, comme une sorte de mixte entre le fonctionnement de la culture à l'américaine et à l'européenne. Jacques-André Dupont se montre aujourd'hui confiant dans la manière dont le gouvernement de Justin Trudeau traite des arts.
Il y a une politique très forte culturelle en ce moment. Le gouvernement Trudeau vient d'annoncer plusieurs choses qui sont très importantes pour le milieu de la culture. Ils ont annoncé des dizaines de millions de dollars de nouveaux argent pour la culture, pour la musique, pour les festivals. Le gouvernement fédéral vient de créer un nouveau ministère du tourisme dans lequel il y a des argents aussi pour la culture, pour les festivals, pour la gastronomie, Et donc, en ce moment, je vous dirais que c'est un bon moment au niveau du développement culturel dans le pays.
Le Festival de Jazz a choisi de fêter ses 40 ans en mettant en place pour la première fois de son histoire une scène en dehors du centre-ville, dans le quartier de Verdun, au milieu des petites maisons en briques typiquement montréalaises. C'est là que se produit le chanteur camerounais Blik Bassi. Il reprend le programme de son album 1958 en hommage au chef indépendantiste du Cameroun, Ruben Oumnioude. Un propos qui trouve un écho au Canada, confronté aujourd'hui à une profonde remise en question de son histoire et du lien aux populations autochtones.
Reportage d'Antoine Pecker à Montréal. Dans un instant, le journal sur RFI. À demain pour visiter le Paris romantique à l'occasion de deux expositions parallèles au Petit Palais et au Musée de la Vie romantique. Et vous m'en direz des nouvelles.